France Culture.
Le journal est présenté par Valentin Grille. Bonjour Valentin.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Jack Lang n'est plus le président de l'Institut du Monde Arabe, mis en cause pour ses liens avec Jeffrey Epstein. Il a présenté sa démission hier soir. Nous reviendrons sur les conséquences pour Lima, un institut hautement politique. Le 8 février 1976, Mayotte votait pour rester dans le giron français. 50 ans plus tard, l'archipel est un département français. Nous reviendrons sur le contexte de cette autodétermination avec l'invité de ce journal, Mamaï Idriss, historienne à l'Université de La Réunion. Et puis c'est l'occasion de prendre des nouvelles de la pop américaine autant que des rapports de force politiques. La finale du Super Bowl, championnat de football américain, c'est ce soir au Levi's Stadium de Santa Clara en Californie. Jack Lang a-t-il choisi de partir avant qu'on ne l'y oblige? L'ancien ministre de la Culture a présenté sa démission de la tête de l'Institut du Monde Arabe hier soir, après avoir dénoncé pendant la journée des accusations infondées et des amalgames. Son nom revient 600 fois dans les documents Epstein et surtout le parquet national financier avait ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, car le milliardaire et délinquant sexuel aurait fait bénéficier à Caroline Lang, fille de Jack, d'une société offshore dotée de 5 millions de dollars. Pour l'Institut du Monde Arabe, l'affaire était embarrassante. Bonjour Lou Momège.
Bonjour Valentin.
Lima est une institution singulière placée sous la surveillance de la diplomatie française. Jack Lang était d'ailleurs convoqué ce dimanche par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Mais avec sa démission, ce n'est plus à l'ordre du jour. Le Quai d'Orsay a lancé la procédure pour nommer son ou sa successeur.
Oui, et c'est le président de la République qui désignera la figure de proue de Lima après consultation des 22 pays arabes membres et des ambassadeurs de la Ligue arabe. Cette décision sera ensuite entérinée par un vote du Conseil d'administration où siègent deux hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay. Alors, pas de limite d'âge pour devenir président de Lima, ni de limite de nombre de mandats, ce qui explique pourquoi à 86 ans, Jack Lang avait déjà été renouvelé 3 fois à la tête de l'Institut.
Lima, c'est aussi une gouvernance et un financement complexe.
Oui, l'Institut du Monde Arabe reste un ovni dans le paysage culturel et juridique français. Une institution privée, de droit français et reconnue d'utilité publique. Née d'un accord international signé en 1980 entre la France et 22 pays arabes, Lima est censée renforcer les liens entre la France et ses pays grâce à la culture. C'est pourquoi la moitié des 14 sièges du conseil d'administration appartiennent à des diplomates arabes. Lima n'est pas sous la tutelle à propre parler du ministère des Affaires étrangères, mais leurs liens sont étroits. Le Quai d'Orsay finance près de la moitié de son budget annuel à hauteur de 12 300 000 euros. L'Institut bénéficie aussi d'un petit mécénat de la part du groupe Total Energy, de la Fondation Lagardère, mais aussi des ministères de l'Éducation et de la Culture. Un soutien financier essentiel puisque la part versée par les pays arabes a nettement diminué. Il ne finance plus que 10% du budget de Lima contre 40%. Au départ. En décembre 2024, la Cour des comptes salue un budget à l'équilibre mais alerte sur la baisse significative des fonds propres de l'institution. La Cour des comptes qui préconise de redéfinir avec les pays arabes leur implication dans les financements de Lima.
Merci beaucoup Lou Momège. Faut-il changer de mode de scrutin face au blocage vécu par nos institutions? C'est ce que réclament ce dimanche dans la tribune une soixantaine de personnalités politiques dont François Hollande ou Elisabeth Borne, ainsi que des historiens et des politologues. Ils souhaitent instaurer une dose de proportionnelle aux élections législatives. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, précise ce matin chez nos confrères de France Info que l'exécutif n'y est pas favorable. Maud Bréjon qui explique par ailleurs qu'il n'y aura aucun moratoire sur les énergies renouvelables. Le Premier ministre Sébastien Lecornu va signer d'ici la fin de semaine prochaine la programmation pluriannuelle de l'énergie, document crucial pour fixer notre transition dans le domaine énergétique. Document publié avec du retard aussi, plus de 2 ans et demi d'attente. Et pour cause, le gouvernement voulait laisser la main au Parlement, mais les députés ne sont pas tombés d'accord sur une feuille de route. L'exécutif prend donc ses propres arbitrages, de nouveaux appels d'offres pour les renouvelables sans faire de pause dans leur déploiement, comme le souhaitait le Rassemblement national, et toujours beaucoup de nucléaire en pleine relance. Au moins 6 nouveaux EPR devraient sortir de terre. Pour Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, il faudrait aller 3 fois plus vite pour tenir nos engagements climatiques en matière d'émissions.
On est en retard. Ce retard, il n'est pas du tout certain que les annonces permettront de le rattraper, en tout cas à l'horizon 2030. Mais néanmoins, il faut continuer à avancer, évidemment en accélérant, parce que dans un monde qui est très instable du point de vue énergétique, continuer aussi massivement à acheter du pétrole et du gaz, et notamment aux États-Unis, évidemment, c'est une menace, c'est une problématique. Et la seule manière d'y apporter une réponse, c'est de mettre en œuvre au plus vite cette PPE. L'autre difficulté, c'est les incertitudes sur le rythme rythme auquel la demande d'électricité va croître, parce qu'on a un parc électronucléaire à l'heure actuelle qui a vocation à produire plus, et puis on va développer plus de renouvelables, et puis on aura en relais les nouveaux EPR, les EPR numéro 2. Mais évidemment, tout ça fait du sens si dans le même temps, on parvient à consommer plus d'électricité, c'est-à-dire plus de véhicules électriques, plus de pompes à chaleur, plus de data centers probablement. Et ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'est qu'une feuille de route, en tout cas un plan pour dynamiser ces consommations d'électricité sera également publié dans quelques semaines.
L'économiste Patrice Geoffron au micro de Rachel Escolano. Il y a 50 ans, jour pour jour, Mayotte répondait à 99% oui lors d'un référendum destiné à savoir si l'archipel souhaitait demeurer au sein de la République française. Il actait alors sa séparation des Comores qui avaient voté leur indépendance au cours d'une consultation en 1974 déclinée par une loi en 1975. Ce 8 février 1976, Mayotte reste pour sa part dans le giron français, un choix qui conditionnera sa vie politique et ses relations avec la métropole jusqu'à nos jours. Pour en parler, l'invité de ce journal, Mama Idriss, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université de La Réunion. Je l'ai évoqué, ce vote à Mayotte en 76 s'inscrit dans une suite de consultations dans tout l'archipel des Comores. Peut-on retracer brièvement la chronologie de ces événements ?
Alors, j'aimerais tout d'abord porter votre attention sur cette consultation du 8 février 1976 qui réitère la consultation de décembre 1974 sur le choix de rester français ou d'accéder à l'indépendance. La question était la suivante. Désirez-vous que Mayotte demeure au sein de la République française ou devienne partie de l'État comorien ? Et près de 99,4% des suffrages se sont prononcés pour le maintien de l'île sous administration française. Et c'est sur la base de ces résultats que Mayotte est à ce jour un territoire français. Pour autant, ces résultats posent question, mes recherches ont pu m'amener à m'interroger. Tout d'abord, l'accroissement du nombre d'inscrits en moins d'un an, un peu plus d'un an entre ces deux consultations, qui passe de 17 000 environ à 21 000, donc une augmentation de 18%. Ensuite, dans ces résultats, on compte 6 bureaux de vote qui obtiennent 100% de voix pour le maintien de Mayotte au sein de la République française, et le reste des bureaux de vote aussi entre 97% à 99,9%. Et ensuite, les témoignages, ainsi que quelques rares archives qui attestent de mesures d'intimidation, de coercition, le cas d'expulsion par centaines d'opposants au parti départementaliste, redirigés, expulsés vers les autres îles de l'archipel des Comores. Et enfin, des témoignages qui rendent compte de mesures de contrôle lors du scrutin, avec l'obligation pour les électeurs de déposer le bulletin restant dans des paniers. Donc voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, en ce jour du 8 février 2026, l'entrave aux droits fondamentaux que sont la liberté d'expression et le droit de vote.
Est-ce qu'on peut attribuer ces éléments que vous évoquez à l'attitude de l'État français qui voudrait garder un contrôle sur Mayotte ou aux équilibres politiques ? Vous mentionnez l'émergence du mouvement départementaliste à Mayotte.
Alors, ce n'est pas mon sujet d'attribuer des fautes et des responsables. En tout cas, mes recherches montrent bien que dans le cadre de cette période d'entre-deux consultations, par exemple, pour vous resituer dans le contexte, quelques temps avant la consultation, il s'agit de consultation et non de référendum, avant la consultation du 8 février 1976, le parti départementaliste a opéré un putsch à Mayotte en juin 1975, quelques temps après la déclaration de l'indépendance, le parti départementaliste a pris le contrôle de l'île en destituant les représentants de l'État comorien et en les invitant à quitter le territoire. Ça, c'est une première étape et qui n'a pas donné suite à l'intervention des forces de l'ordre. Un autre élément de contexte, durant cette période d'entre de consultations, de nombreuses expulsions ont lieu, avec notamment l'appui d'un groupe paramilitaire qui, d'après certaines sources, entretiens et quelques rares fragments documentaires, étaient soutenus par par les forces de l'ordre. Les archives témoignent, par exemple, le cas de destruction de maisons de la part de ces groupes paramilitaires, d'agressions physiques, de bannissements, donc un climat de tension et de violences qui ne peuvent, en tout cas qui interrogent sur les circonstances du déroulement du scrutin.
Quel est l'héritage de ce vote justement en 76? Est-ce qu'on peut parler d'un tournant, puisque je le disais, Mayotte a fini par accéder au statut de département? Est-ce que c'est vraiment un tournant dans l'histoire de Mayotte par rapport à son positionnement vis-à-vis des Comores comme vis-à-vis de l'État français?
Alors, cette période, hein, ce temps de division de l'archipel, hein, on peut le penser comme un temps zéro qui ouvre vers, avec la direction que prend Mayotte séparée des autres îles. Hein, elle opère comme une sorte de temps zéro, mais je pense que c'est un précédent qu'il faut aussi envisager dans l'évolution institutionnelle de Mayotte, si on regarde aujourd'hui dont la manière dont le droit est entravé. Et c'est peut-être aussi, hein, je pense, un problème plus général, hein, qui dépasse Mayotte, qui n'est pas spécifique à Mayotte, et qui concerne la place du suffrage comme pierre angulaire de la légitimité démocratique. Le jeu électoral est considéré aujourd'hui comme un pilier de la vie citoyenne, et pourtant, lorsqu'on voit dans quelles circonstances est réalisé le suffrage qui a validé le maintien de Mayotte sous administration française, lorsqu'on voit les fraudes, hein, qui ont lieu, la répression des partisans, ça pose la question du rapport des citoyens à ces institutions. Quelle légitimité, quel rôle d'exemplarité peut avoir un système qui trouve son origine dans des circonstances telles que la violence et la remise en cause du droit de vote?
Merci beaucoup, Maman Idriss. Je vous coupe là. Je rappelle que vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université de la Réunion. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à Louise Guérin pour la préparation. En Iran, comme ailleurs, faut-il désigner des menaces étrangères pour faire oublier le contexte intérieur? Cela fait en tout cas deux fois en 48 heures qu'Abbas Araghchi, chef de la diplomatie du régime iranien, commente les négociations en cours avec les États-Unis. Les deux parties ont convenu de se retrouver prochainement pour évoquer leurs différends, le tout sous pression de Donald Trump qui déploie des forces militaires dans la région. Autant de déclarations, Nathanaël Charbonnier, qu'il faut relativiser car elles servent surtout à détourner l'attention de la répression sanglante en cours en Iran.
Qui parle encore des balles réelles tirées par le régime iranien sur son peuple? Qui parle encore des milliers de morts, des milliers de blessés et des milliers de personnes emprisonnées par les mollahs? C'était pourtant il y a un mois à peine, en sachant que le bilan de cette horreur sanglante n'est toujours pas connu. Depuis quelques jours, les discussions sont donc ailleurs. Les autorités iraniennes, ministre des Affaires étrangères en tête, insistent sur le sérieux des déclarations américaines, sur le fait que non, les Iraniens ne renonceront pas à l'enrichissement de leur uranium, pas plus qu'ils ne se priveront de missiles balistiques capables de frapper les pays voisins. La stratégie consiste à détourner l'attention avec des déclarations qu'il faut toutefois replacer dans le contexte, à savoir celui d'une négociation qui ne fait que recommencer. L'heure est aux enchères que le régime des mollahs fait monter, en sachant que rien ne se passera avant qu'Américains et Iraniens ne se retrouvent prochainement autour d'une table.
Nathanaël Charbonnier, les premières projections lui donnent 274 sièges à l'Assemblée japonaise. La très conservatrice première ministre Sanae Takaichi devrait remporter les élections législatives de ce dimanche, élection convoquée par elle-même pour une campagne éclair de 19 jours en janvier. Deux équipes de football américain, les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, s'affrontent ce soir pour le titre de champion. C'est le Super Bowl, rendez-vous annuel sportif où c'est la mi-temps qui prend toute la lumière. Grand show musical par 200 millions de spectateurs dans le monde, et cette année c'est Bad Bunny, artiste latino-américain originaire de Porto Rico, qui assure le spectacle avec Green Day, groupe de rock. Deux artistes farouchement opposés à la politique de Donald Trump. La Maison Blanche boycotte d'ailleurs la cérémonie. La correspondance aux États-Unis depuis Atlanta de Laurent Kramer.
Pour Donald Trump, il s'agit d'une provocation. L'artiste le plus écouté au monde est aussi celui qui affiche la plus forte hostilité à sa politique migratoire. Le choix de Bad Bunny pour chanter ce soir devant des centaines de millions de spectateurs est donc vécu comme un affront par la Maison Blanche. Au-delà de sa dénonciation de la politique d'immigration, le camp Trump déteste le discours inclusif de Bad Bunny qui célèbre sur scène et dans ses chansons la culture queer LGBTQ+, et rejette tous les codes culturels machistes et misogynes. Deuxième provocation de ce Super Bowl ce soir pour Donald Trump, le groupe Green Day, qui ne cesse lui aussi de s'opposer à sa politique. Pas de fascisme aux États-Unis, pas de Trump ni de Ku Klux Klan. Le groupe californien modifie régulièrement les refrains de ses chansons pour y glisser des messages cinglants envers Donald Trump et son administration. Derrière le choix de ses artistes délibérément anti-Trump, la star et milliardaire du rap Jay-Z, elle aussi farouchement opposée à Donald Trump depuis des années, est donc responsable de la direction artistique de ce Super Bowl.
Votre météo cet après-midi, pluvieuse dans la moitié sud du pays et en Bretagne, des éclaircies sur la moitié nord et sur les Landes. Le Morbihan reste placé en vigilance orange pour crue. Comptez 5 degrés à Belfort, 11 à La Rochelle, 13 degrés à Paris.